Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pardon, pour ce jeudi 29 janvier 2026. Au programme aujourd'hui, pas mal de surveillance technologico-policière avec des entreprises françaises impliquées comme Capgemini, on parlera aussi de Palantir avec son fameux président Peter Thiel. On va parler des Jeux Olympiques, de trafic aérien. Et puis aussi, eh bien, un petit peu de déferlante d'actes racistes ces derniers temps en France. Ce qu'on peut largement mettre en parallèle avec aussi l'évolution des discours médiatiques qui sont tolérés sur les chaînes nationales. Et oui, c'est sur le site de Contre-Attaque en ligne, site contreattaque.net, qu'est recensée ces petites brèves, hein, des faits divers, comme on pourrait certainement les nommer dans les rubriques des journaux. Mais quand on la met bout à bout, ça donne quand même un petit avant-goût un petit peu amer de la situation aujourd'hui. Ça s'appelle « Déferlantes racistes et islamophobes. Les agressions se multiplient dans tout le pays ». D'ailleurs, la stratégie de dédiabolisation ou de respectabilité mise en œuvre par différents partis d'extrême droite au cours de ces dernières années, on oublierait presque, nous dit ce papier, qu'en plus d'être nauséabonde, ces idées ont des conséquences bien réelles. Ainsi, au cours des derniers mois, le nombre de violences commises par des nervis, policiers ou militants d'extrême droite explose. Un petit tour d'horizon donc, notamment d'abord à Décines-Charpieu, pas loin de Lyon. C'est un lycéen de 17 ans dont le trajet ordinaire a viré au cauchemar, c'était ce 19 janvier. Ce jeune garçon est d'origine syrienne, il a été attaqué puis tabassé par trois hommes cagoulés avant d'être taillé au visage par des lames de rasoir. Le tout a été accompagné d'un torrent d'injures racistes, on l'a appelé sale arabe ou sale musulman. Laissé pour mort, ce jeune homme de 17 ans, les agresseurs ont pris soin de lui raser les sourcils avant de prendre la fuite. Alors qu'une enquête a été ouverte pour violence aggravée en réunion, il a reçu une ITT de 5 jours seulement. Des sources policières appellent pourtant à la prudence concernant d'éventuels mobiles racistes des agresseurs. Voilà pour le traitement juridique. Du côté de Nice maintenant, c'est à la mi-décembre, une quinzaine de jeunes fascistes, hein, des nervis d'extrême droite, a semé la terreur dans les rues du Vieux-Nice. Un groupe de 5 amis qui était venu boire des coups s'est fait attaquer par cette quinzaine de personnes cagoulées là aussi, après s'être fait traiter de sales bougnoules, incapables de faire face à autant de violence, hein. Une des victimes raconte s'être fait shooter de partout avant que ce soit finalement des passants qui n'interviennent et provoquent la fuite de cette petite bande d'excités. Une des victimes de l'agression a témoigné le lendemain que physiquement ça aurait pu être vraiment pire. Heureusement qu'il n'avait pas de lame, dit-il, mais que ces insultes racistes font encore plus mal, que les coups, ça reste dans la tête. Les soupçons et les regards sont tournés vers Aquila Popularis, qui est un groupuscule néo-nazi qui fêtait justement ses 3 ans ce soir-là. Et dans cette petite troupe sont recensés d'anciens membres des Zoulous, qui est lui aussi un groupe ultra-violent actif jusqu'à 2021. À Toulouse, c'est ce 18 janvier que 2 étudiants ont vu débarquer dans leur appartement un voisin armé qui leur a crié « On ne veut pas d'étrangers, c'est nous qui payons la CAF, je ne donne pas mon nom à des Arabes ». Donc vous l'aurez compris, avec seul crime pour eux d'avoir la mauvaise couleur de peau, un de ses étudiants en médecine et l'autre en mathématiques se sont crus voir mourir ce soir-là. À nouveau en jeu, donc des discours d'extrême droite sur les associés, hein, les assistés, qui visiblement font mouche dans l'esprit des plus dérangés, qui passent un peu trop de temps, j'imagine, devant leur télé. D'ailleurs, triste ironie, hein, celui qui pensait venir taper des assistés est lui-même sans emploi, alors je vous le disais que les deux autres sont étudiants en médecine et en mathématiques. Enfin, dans le Val d'Oise, c'était ce 23 janvier, 2 pompiers d'origine maghrébine ont découvert dans leur placard personnel, dans leur vestiaire, du jambon sur lequel étaient inscrits des insultes racistes avec des références religieuses détournées. Et visiblement, ça ne leur a pas suffi la première fois, puisque les auteurs ont reproduit la même action dès la deuxième sortie de garde de ces deux pompiers. Donc voilà, loin d'être une simple énumération de faits divers, ces agressions pour le média contre-attaque illustrent le passage à l'acte raciste qui se généralise et l'impunité de plus en plus manifeste en faveur de l'extrême droite. Sagement rangés dans leur fauteuil, les chroniqueurs de CNews ou de BFM distillent patiemment leur poison avec des audiences de plus en plus vastes, repoussant toujours plus loin la frontière de l'acceptable. Et il est rappelé que les actes islamophobes ont augmenté de 75% sur la simple période janvier-mai 2025, si on la compare à l'année précédente, avec un triplement des atteintes aux personnes. De quoi rassurer hein, celles et ceux qui se questionneraient encore sur l'arrivée imminente de l'extrême droite au pouvoir. Les Jeux Olympiques, il y aura un débat public sur l'organisation de ces JO d'hiver qui sont prévus en 2030 dans les Alpes, donc en partie en France. C'est ce 26 janvier que le tribunal administratif de Marseille a rendu une décision inédite qui ordonne à la Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques, qui va donc construire les infrastructures de cette compétition, et bien lui ordonne de se saisir de la Commission nationale du débat public. Le débat va devoir être mené au plus vite, sans attendre que les caractéristiques de chaque ouvrage envisagé soient connues, avec davantage de précision, précise d'ailleurs le tribunal. Jusqu'à présent, les organisateurs des Jeux Olympiques n'avaient pas jugé bon de saisir cette commission du débat national, car, estimait-il, le budget de chacun des projets était sous le seuil obligatoire pour une saisine. Ce seuil est de 460 millions d'euros. Mais effectivement, si on prend la globalité, et dans cette ordonnance, le juge a constaté que les Jeux Olympiques d'hiver 2030 constituaient bien un projet unique global. C'est pas une somme de petits projets, et avec des incidences sur l'environnement, tu m'étonnes. Le budget total, d'ailleurs, de la Solideo, pour l'instant, il est à 1,4 milliard d'euros. Ça ne dit pas s'ils vont réussir à faire tomber de la neige. Cette ordonnance donc d'un tribunal administratif faisait suite à la saisine de ce même tribunal par le collectif citoyen JOP 2030, accompagné d'élus, de parlementaires et d'organisations de la société civile, comme l'ONG Mountain Wilderness. Le juge vient de mettre un coup d'arrêt à ce déni démocratique en ordonnant à la Solideo de respecter ses obligations légales, estimait Delphine Lara, la cofondatrice de ce collectif, dans son communiqué de presse. On reste dans les brèves autour de l'environnement pioché, donc dans le journal Reporter. On y apprend deux choses sur les avions, l'aviation notamment. Tout d'abord que le trafic aérien a dépassé pour la première fois son niveau d'avant Covid en 2025. Donc le trafic aérien a atteint 183 millions de voyages aériens individuels au départ ou à l'arrivée du territoire français. Ça fait plus qu'en 2019, avant la crise du Covid, où on était aux alentours de 180 millions de voyageurs. Cette hausse, elle est principalement due aux vols internationaux, qui ont augmenté de 7,3% par rapport à il y a 6 ans, et qui représentent 85% du volume des passagers totaux. Ça, ce sont des chiffres de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Notamment la liaison vers l'Afrique, qui connaît un succès retentissant, avec presque 32% de voyageurs en plus. En revanche, du côté des vols intérieurs, on est en chute libre. Ceux-ci enregistrent une baisse de fréquentation de 1,5% par rapport à l'an dernier et surtout de 21% par rapport à 2019. Selon les professionnels du secteur, cette baisse s'explique par une plus forte concurrence du train sur les lignes entre Paris et les grandes métropoles régionales, ainsi que par l'alourdissement des taxes sur les billets d'avion, le recours accru aussi aux visioconférences, où les politiques de responsabilité environnementale des entreprises ont aussi leur rôle à jouer dans cette désertion des lignes intérieures. Presque tous les grands aéroports français, sauf Marseille, ont enregistré une hausse de leur fréquentation entre décembre 25 et décembre 24. Et à côté de cela, le lobby du transport aérien, donc toutes ces grandes compagnies, eux, sont très contents et se félicitent du nouveau budget pour 2026. Donc on est sur une bonne trajectoire de croissance à tous les étages. Le budget 2026, vous le savez, sur lequel le gouvernement vient d'actionner le 49-3, ça veut dire qu'il sera adopté sans vote s'il n'y a pas de motion de censure le 3 février, ce budget écarte toute nouvelle hausse de fiscalité justement sur les billets d'avion. Notre travail commence à porter, c'est d'ailleurs féliciter la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers face à la presse, c'était il y a 2 jours. Le lobby aérien a donc bien travaillé et a tout fait pour éviter une nouvelle hausse de cette taxe dite de solidarité sur les billets d'avion. Après celle qui était inscrite au budget 2025, elle représente 850 millions d'euros de recettes par an. Maintenant, déclare toujours le président de la FNAM, Pascal de Izaguirre, notre objectif va être une réduction de la fiscalité. Le transport aérien bénéficie déjà de longue date d'une absence de taxe sur le kérosène et d'une taxe sur la valeur ajoutée à 0% sur tout ce qui est long courrier. La longue distance est d'ailleurs déjà exemptée du paiement des quotas carbone, ce qui fait 5 milliards d'euros de niche fiscale pour la France, selon le média TNE.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Tout va bien, ouais. Et pendant ce temps, je vous parlais la semaine dernière, de l'occupation de AgroParisTech, ce campus d'étudiants ingénieurs agronomes, par des étudiants, avec une mobilisation dans laquelle ils dénonçaient la mainmise de l'agro-industrie, notamment à travers le Mercosur et aussi sur les partenariats de leur école. Eh bien, 35 de ces élèves ont été exclus 15 jours suite à leur mobilisation. Une évacuation policière du blocus, des exclusions, des suites disciplinaires annoncées. Les mesures punitives pleuvent sur ces étudiants agro du campus Palaiseau, donc de l'école AgroParisTech. 35 d'entre eux ont été exclus 15 jours, donc du 26 janvier au 10 février, suite à leur mobilisation qui a duré 4 jours dans les deux bâtiments principaux du campus. Parmi les revendications principales de leur mouvement, la contestation du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, et aussi de la politique de l'abattage total des vaches liées à la dermatose bovine, mais enfin aussi des liens entre le conseil d'administration de leur école et le syndicat de la FNSEA, syndicat agricole productiviste. D'après un courriel, un mail consulté par un reporter, par lequel le directeur général du campus, enfin de l'école, Laurent Buisson, justifie cette exclusion d'étudiants, l'établissement leur reproche justement d'avoir empêché avec le blocage les agents de sécurité de faire leur ronde pour vérifier les conditions de sécurité incendie, mais aussi d'avoir introduit des réchauds à gaz et des bonbonnes pour faire la cuisine, et d'avoir outrepassé l'interdiction unilatérale des conférences auxquelles se sont rendus plus de 200 étudiants. Ils ont fait des AG. Un dernier reproche plutôt contradictoire, vu que les autres reproches sont justement d'avoir empêché le déroulement d'autres événements autorisés. Donc, c'était pas le nombre de personnes prévues, c'était surtout qu'ils le fassent à leur guise. Selon le collectif Agro en lutte, donc à l'initiative de cette mobilisation, les 35 étudiants auraient reçu cette même notification par mail. C'était ce dimanche 25 janvier.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Qu'est-ce donc cette diablerie ? On va parler un peu des nouvelles technologies. Et tout d'abord du groupe français Capgemini, qui était branlé par le scandale autour de son contrat avec la police de l'immigration américaine, la fameuse ICE. Le contrat n'était pas secret, mais il était perdu au milieu d'une centaine d'autres sur les sites internet de l'administration américaine. Le voilà maintenant exposé au grand jour, ce qui pose à Capgemini de sérieux problèmes d'image, que la direction d'ailleurs de ce géant français des services numériques a tenté de corriger hier en fin d'après-midi avec une communication destinée à l'ensemble de ses salariés de l'Hexagone. Alors l'objet du scandale, c'est le suivant. Une filiale américaine de Capgemini, qui est cotée au CAC 40, travaillerait pour l'ICE, la redoutable et meurtrière police de l'immigration américaine, qui traque les migrants en plusieurs endroits des États-Unis pour les expulser. Et d'ailleurs, depuis son retour à la Maison-Blanche il y a un an, Donald Trump, le président, a considérablement augmenté le budget de cette agence fédérale qui avait été créée sous George W. Bush. Alors ça a commencé avec un article publié dans l'Observatoire des multinationales le 18 décembre dernier. On lisait donc que CGS, c'est Capgemini Government Solutions, des solutions du gouvernement de Capgemini, qui est là, cette filiale américaine, a conclu un contrat avec donc la ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, pour un montant de 4,8 millions de dollars. L'objectif du contrat, c'est d'aider les autorités à réduire le temps nécessaire et les coûts induits pour expulser tous les étrangers expulsables des États-Unis. Cette page, d'ailleurs, a depuis disparu du site Internet, mais elle a été sauvée grâce aux archives d'Internet. Concrètement, donc, il faut faire du skip tracing, c'est-à-dire fournir aux forces de l'ordre des documents et des adresses qui permettent d'identifier et de localiser le plus efficacement possible des personnes en situation irrégulière. Vous savez, les big data, tout ça, finalement, ça peut fonctionner tout comme c'était prévu. Les contrats de l'ICE, d'ailleurs, auxquels s'apparente celui de Capgemini, en manière générale, En plus, ce n'est pas des contrats à prix fixe, puisque leur rémunération est indexée sur les résultats. Et oui, il y a des bonus financiers si la société identifie l'adresse ou le lieu de travail de l'étranger du premier coup, ou si elle rend un rapport de vérification dans les 48 heures. Selon France 2, cette boîte, donc la branche américaine de Capgemini, pourrait engranger ainsi jusqu'à 65 millions de dollars au total pour ses services bien rendus, la classe. Depuis, un certain émoi règne au sein de l'entreprise. Les syndicats du groupe multiplient les communiqués. Par exemple, dans celui de la CGT, on rappelle des propos tenus en 2023 par le directeur général de Capgemini, Ayman Ezzat. Voici ce qu'il disait. « Depuis sa fondation, Capgemini est naturellement enclin à un respect inébranlable des droits humains. Et nous considérons que c'est une condition préalable à la réalisation de notre ambition d'avoir un impact positif sur toutes les parties prenantes de notre écosystème. » Le syndicat de la CGT indique s'être déjà alarmé lors d'un comité social et économique qui a eu lieu en septembre 2025, quand il apprenait justement que Capgemini implémentait, donc installait chez certains clients, le logiciel de gestion des données Palantir, qui est dirigé par Peter Thiel, c'est une des éminences grises de Donald Trump, je vous en parlerai juste après. Le communiqué souligne par ailleurs qu'en mars 2025, on apprenait dans les colonnes du Canard Enchaîné que l'entreprise Capgemini faisait disparaître le mot « diversité » de tous ses documents de communication. Cela, vous le savez, pour ne pas froisser, encore une fois, Donald Trump fraîchement réélu et pour préserver donc ses activités aux États-Unis. Bon, après, c'est pas le premier contrat de Capgemini avec l'ICE. La CGT dit avoir retracé des partenariats depuis 2007, même 2004, avec le département de la Homeland Security. De changement d'administration, ça fait presque 20 ans qu'on collabore avec ICE, résume le délégué syndical CGT. Selon lui, en interne, beaucoup de gens sont choqués, déçus ou en colère. Bon, quand même, j'imagine qu'ils savaient un peu pour quelle entreprise ils travaillaient, mais bon. D'autant que pendant plusieurs jours, la direction a observé un silence total de plus en plus remarqué. 35 000 salariés en France sont dans le noir le plus complet, dénonce ce syndicaliste. L'affaire a même pris une tournure politique ces dernières heures, puisque le ministre de l'économie, Roland Lescure, a appelé l'entreprise à faire la lumière de manière extrêmement transparente sur les activités qui sont les siennes, sur cette politique, et sans doute à questionner la nature de ses activités. Ouais, à moins de s'auto-saborder, je vois pas trop. Quand tu fais de la recherche de data, forcément, c'est vers ce genre de boulot que tu es orienté. En tout cas, si le gouvernement n'a pas directement la main sur l'entreprise qui est privée, plusieurs ministères figurent quand même parmi les clients de Capgemini, ainsi que des administrations et des organismes publics. Je sais pas si c'est pour nous rassurer, parce qu'a priori, la CAF, tout ça, les pôles emploi, sont gérés un peu de la même manière. Le scandale survient une semaine après que Capgemini a en plus annoncé un plan de suppression d'emplois, 2400 postes, un plan de suppression critiqué par les syndicats. Alors un premier CSE se tient ce matin même au sujet du plan de suppression de l'emploi, mais la CFDT et la CGT ont déjà prévu de déborder cet ordre du jour pour parler donc de la collaboration avec l'ICE. La CGT a déjà rendu public d'ailleurs le courrier qu'elle va adresser au PDG, qu'elle lit donc ce matin. Elle y demande l'arrêt immédiat et public de toute collaboration avec l'ICE et les institutions fédérales américaines tant qu'elles seront aux mains de régimes fascistes. Et on va parler maintenant donc du fameux Palantir, cette société états-unienne. Eh bien, le mania de la tech américaine, Peter Thiel, qui est donc le fondateur de Palantir, est intervenu ce lundi soir en France. Eh bien, au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Ouais. Cette figure de la tech libertarienne, donc Peter Thiel, est intervenue en anglais dans le cadre d'un groupe de travail qui est consacré à l'avenir de la démocratie. Je vous en garantis, c'est pas fait pour nous rassurer. C'est l'avenir de la démocratie, c'est ce qu'apprécie donc l'Académie des sciences morales et politiques. Il était d'ailleurs invité par la philosophe et membre de l'Académie, Chantal Delsol, qui est elle-même d'obédience conservatrice et défenseuse du principe de l'union des droites. Alors, Peter Thiel fait son discours pendant presque une heure, 10 pages d'intervention, et le résumé écrit a été fourni. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Peter Thiel, c'est le fondateur de PayPal aussi, c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Et maintenant, depuis, il peut délirer à plein pot, vous allez voir. Donc, le résumé écrit a été transmis aux participants, et c'est le journal Politico, sur les pages duquel j'ai pu justement trouver cet article. Peter Thiel a parlé de l'antéchrist. Il a présenté durant près d'une heure une version élargie de la première partie d'un cycle de conférences qu'il a donné ces derniers mois à San Francisco, donc au sujet de l'Antéchrist. Et je vous rappelle qu'on est à l'Académie des sciences morales et politiques. L'Antéchrist, donc une figure de la théologie chrétienne, soit un usurpateur du Christ, qui est censé prendre la place de Jésus avant la fin du monde, il est au cœur donc de la pensée de ce proche du vice-président américain Jed Evans, et donc dans l'entourage très proche de Donald Trump. J'ai plus entendu parler de l'Antéchrist pendant ces 45 minutes que durant tout le reste de ma vie, s'amusait d'ailleurs un participant à ce rendez-vous. Selon ce milliardaire, donc, l'Antéchrist prendrait la forme d'une personne qui répand des rumeurs de guerre et qui effraie les populations pour que vous lui donniez le contrôle sur la science. Que ces risques soient environnementaux ou technologiques, à l'image de ceux posés par l'intelligence artificielle. Et Peter Thiel pointe aussi le risque d'un gouvernement global totalitaire. Alors, il n'est pas en train de parler de Donald Trump du tout, non, vous savez qui il vise ? Eh bien, Greta Thunberg, ou encore les altruistes anti-IA. Voilà, les altruistes et Greta Thunberg, c'est pour lui l'antéchrist, c'est ça qui lui fait peur, l'avènement d'un gouvernement global totalitaire. Bon, quand même, cette venue avait été décriée, une manifestation, hein, un rassemblement avait lieu devant l'Institut de France pendant son intervention pour dénoncer cette présence. Bon, il n'était pas venu en France que pour ça, hein, puisque... Il a profité de son passage à Paris pour rencontrer lundi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pendant un déjeuner, pour un échange, dit-on, sur nos différences d'appréciation s'agissant de plusieurs sujets majeurs, à savoir la régulation numérique, toujours, la démocratie libérale, la civilisation européenne, la relation transatlantique notamment. C'est ce qu'expliquait l'entourage du ministre qui voulait expliquer pourquoi est-ce qu'il le rencontrait. Peter Thiel, donc le cofondateur de Palantir, a aussi des relations d'affaires à soigner en France, hein, où son entreprise est spécialisée dans les logiciels et l'analyse de données, fournit notamment la DGSI, à savoir la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ou encore le groupe Airbus. Alors pour les fans du Seigneur des Anneaux, vous le savez, mais pour les autres, le Palantir, c'est cette boule de cristal là, dans laquelle on peut tout voir, mais qui a été... préempté par le grand méchant Sauron, hein, piraté, qui participe donc plutôt à propager le mal. Drôle de symbole, je trouve, d'avoir pris ça pour la société de celui qui croit lutter contre l'Antéchrist. Voilà, la scène où Pipin regarde dedans, pour les geeks. Allez, on termine ce tour du monde des horreurs. On part en Italie, et puis il y a des petits liens avec l'Amérique, vous allez voir. C'est dans le Courrier International qu'on apprend ça. Il y a un balance ton prof de gauche, c'est des tracts et un questionnaire qui circulent dans les lycées italiens. C'est le questionnaire de la discorde. Hein. Dans plusieurs établissements secondaires donc, d'Italie, des militants du groupe d'extrême droite Azione Studentesca, donc Action étudiante, qui est lié au parti de Giorgia Meloni, eh bien, ils ont fait circuler un questionnaire qui propose de signaler son enseignant de gauche qui ferait de la propagande. Des simples tracts ont été distribués, hein, c'est ce qu'explique La Repubblica, quotidien de gauche, distribués dans plusieurs lycées aux quatre coins de la péninsule par ce petit groupuscule d'extrême droite militant dans les lycées. Et il est lié à Gioventù Nationale, qui n'est autre que le mouvement de jeunesse de Fratelli d'Italia, lui parti de la première ministre Giorgia Meloni. Sur ces tracts figure un QR code qui renvoie à un questionnaire en ligne où les étudiants peuvent exprimer leur vision sur l'instruction italienne. Et parmi les questions posées figure la suivante. As-tu un ou plusieurs professeurs de gauche qui font de la propagande pendant les leçons ? Après avoir répondu par oui ou par non, les élèves ont la possibilité de décrire des cas frappants pour eux. Il n'en faut pas plus à La Repubblica, elle, pour parler de fichage, ce que dénoncent d'ailleurs plusieurs membres du corps enseignant, qui ont orchestré une petite contre-offensive sur les réseaux sociaux, où ces professeurs s'auto-dénoncent comme profs de gauche. Évidemment, partie du monde de l'instruction, la politique n'a pas tardé à déborder dans la sphère politique. L'opposition ne se prive pas d'attaquer donc, le parti de Giorgia Meloni, à grand renfort de référence aux origines néofascistes de celle-ci, ainsi au Parti démocrate, le PD, le président centre-gauche, Francesco Boccia, évoque des fichages de masse contre les antifascistes et accuse Azione Studentesca de faire la même chose. Et il demande enfin à la Première ministre de prendre ses distances avec l'initiative. Celle-ci, piquée au vif, n'a pas réagi directement. Elle a laissé la tâche à un de ses fidèles, le député Giovanni Donzelli. Lui s'est fendu de la déclaration suivante. S'il existe des professeurs qui, au lieu d'enseigner correctement, font de la propagande, les étudiants ont le droit de protester. Le Parti démocrate est bien loin de l'esprit de 68, lorsqu'on encourageait les étudiants à protester contre tout. Eux d'ailleurs, selon les premières informations relatives à une enquête qui a été menée par le ministère de l'Instruction, le gouvernement devrait arriver aux mêmes conclusions, hein, qu'il n'y a pas de fichage. C'est la sous-secrétaire à l'Instruction, Paola Frassinetti, qui s'est limitée à évoquer une sorte de sondage anonyme effectué par certains étudiants. Et elle conclut que l'école doit rester un lieu de confrontation libre, pluraliste et respectueux. Et voilà, et puis on termine la boucle, on reste en Italie avec cette nouvelle qui fait aussi polémique. On y apprend que des agents de la ICE, donc cette fameuse police américaine de l'immigration, qui est tristement célèbre en ce moment, bien qu'ils seront présents en Italie pour les Jeux Olympiques, qui se tiennent à partir du 6 février à Milan. Des agents présents pour évaluer et atténuer les risques liés aux organisations criminelles transnationales, ce que déclarait ce mardi un porte-parole de l'ICE. Aux Jeux Olympiques, le service de sécurité intérieure de l'ICE soutiendra le service de sécurité diplomatique du département d'État américain, ainsi que celui de l'Italie, pour évaluer et réduire donc les risques liés aux organisations criminelles transnationales. Le maire de la ville, Giuseppe Sala, lui, a déclaré que ces agents de l'ICE n'étaient pas les bienvenus. La présence potentielle de ces agents aux Jeux du 6 au 22 février a suscité un vif débat en Italie, alors que 2 citoyens américains ont été tués par ces agents à Minneapolis ces dernières semaines, mais 9 en tout pendant l'année. Les autorités italiennes ont d'abord nié la présence d'agents de l'ICE, puis ont tenté d'en minimiser le rôle. Ils suggèrent qu'ils n'aideraient qu'à assurer la sécurité de la dite délégation américaine. En effet, Jed Evans, donc le vice-président américain, et son secrétaire d'État Marco Rubio doivent assister à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à Milan ce 6 février. Le département de sécurité intérieure de l'ICE lutte dans ses tâches normalement à l'international contre le trafic de drogue et le terrorisme notamment, selon le site de l'agence qui est cité par son porte-parole. Et voilà, est-ce que l'Italie veut faire l'américaine ou est-ce que c'est l'Amérique qui nous l'a fait à l'italienne façon années 30? Et nous, est-ce qu'on fait de la propagande de gauche? Ben voilà, vous avez jusqu'à mardi pour y répondre. D'ici là, on va laisser un joli italien nous en parler. C'est Adriano Celentano avec justement le bien nommé Tu vuoi far l'americano. Allez, ciao ciao et bon courage d'ici là.
Ortica su neguno stemma reta, la cupulella che vi si era isata, passa scampagnando pituleta, con mano guappo per te fa guardare.
Vedi? Ok! Tu vuoi venire alla moda, ma se beve whisky and soda, poi ti senti disturbato. Qua ballo rock and roll, tu giochi al baseball, fai soldi per il camel, chi te li dà la posetta di mamma? Tu vuoi fare americano, 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 ma sei nato in Italia, siendo me non c'è sta niente, va ok da pure.
Hey! Un altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ridley. Tom, vieni qua, vieni qua.
Come da poca vi chiedevo bene, si
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.